Ainsi, l'apôtre Simon, fils de Judas, est appelé Pierre par Jésus. Il le surnomme ainsi et il lui dit cette phrase bien connue en latin « Tu es Petrus » et en français « Je te le dis, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Je vous rappelle que nous avions vu la semaine dernière que probablement il ne s'agit pas d'une identification de Pierre à un fondement d'une institution ecclésiastique qui n'existait pas encore, mais certainement que Jésus dit ça à Pierre au moment où il confesse sa foi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Pierre dit cette confession de foi extraordinaire, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant ». Et Jésus lui dit, « Ça, c'est la pierre sur laquelle je bâtirai mon Église », c'est-à-dire que l'Église, elle est construite sur la confession de foi de reconnaître en Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais en même temps, appeler son apôtre Pierre n'est pas innocent. Et en effet, comme lecteur de l'Ancien Testament, moi j'ai le souvenir que la pierre dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comme dit le psaume, « Qui est le rocher si ce n'est notre Dieu ?» Dieu qui est le rocher, la forteresse, la haute retraite, et c'est la pierre sur laquelle Moïse va frapper avec son bâton et d'où va surgir des sources d'eau vive pour abreuver le peuple dans le désert. Et donc je me suis dit probablement que quand on appelle quelqu'un Pierre, ça doit traîner des tas de sens extraordinaires qui nous viennent de l'Ancien Testament. Et j'avais donc prévu de prêcher sur ce thème. Mais en fait, ça m'a donné beaucoup de mal, je vais vous le dire. Beaucoup de mal parce que j'ai cherché toutes les références qu'il pouvait avoir lieu dans l'Ancien Testament à propos de la pierre, quand elle est appelée Petros ou Petra, la pierre, parce qu'il y a plusieurs mots pour désigner la pierre. Et je me suis aperçu qu'en fait, je ne pouvais absolument rien en tirer. Rien, de rien, de rien. Pourquoi ? Eh bien, parce que parfois, c'est vrai, la pierre est attribué à Dieu, qui est une pierre, mais parfois aussi, la pierre, eh bien, c'est le rocher sur lequel je bute et qui me fait tomber. Parfois, la pierre dans l'Ancien Testament, c'est un bon rocher solide, et parfois, c'est aussi le caillou avec lequel je vais fracasser la tête de mes ennemis pour le tuer. Parfois, c'est simplement le caillou qui m'embête dans ma sandale, ou parfois, c'est le rocher posé sur le bord du chemin, c'est... Et donc la pierre dans l'Ancien Testament, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est un peu tout, c'est du bien comme du mal. Alors je me suis dit, oui, mais quand même, la pierre, c'est quelque chose de solide. Par exemple, vous savez, ce verset, on dit la pierre d'angle, la pierre angulaire, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, elle est devenue la pierre d'angle, Jésus, la pierre angulaire. Oui, très bien, sauf qu'à ce moment-là, ce n'est pas le même mot. Et effectivement, en grec, il y a plusieurs mots pour dire la pierre. Il y a Petra, la pierre, aussi Petros d'ailleurs. Curieusement, c'est un mot en grec qui a les deux genres. Et ça, c'est la pierre vulgaire, je dirais. Et puis oui, c'est vrai, il y a la pierre de construction. Mais à ce moment-là, c'est lithos. Ce n'est pas le même mot. C'est la pierre sur laquelle on construit. Mais donc la pierre Petra, eh bien, ça n'est rien de particulier, ça n'est rien de clair. Si ce n'est quelque chose de solide, quoi, qui résiste pour le bien ou pour le mal. Donc je me suis dit que j'avais rien à en dire et j'ai failli changer de sujet de prédication en disant, après tout, Jésus a appelé Pierre, Pierre, parce que c'était un gars solide, il avait un tempérament fort et puis voilà, c'est tout. S'il avait été américain, Jésus aurait dit, je t'appelle Rocky. Voilà, c'est tout, je ne vais pas faire une prédication là-dessus. Mais finalement... Peut-être me suis-je dit qu'on pouvait garder cette ambiguïté. Parce que le rocher peut être effectivement pour le meilleur comme pour le pire. Et ça c'est intéressant parce que Pierre aussi en tant que personne peut être parfois le meilleur de l'évangile et parfois le pire. C'est lui qui a quand même renié le Christ au moment de son procès. Enfin, il dit aussi il fait aussi des horreurs. Et donc Pierre peut être le meilleur ou le pire. Et finalement, je vous l'ai dit, il est appelé Pierre au moment où il confesse sa foi. Et ça, ça m'intéresse. Que Pierre, en tant qu'il confesse sa foi, c'est-à-dire moi-même peut-être, quand je confesse ma foi, eh bien cette foi que je confesse, elle peut être comparée à du roc qui peut être le meilleur ou le pire. Comparé à du roc, oui, parce que, ça je le crois, la confession de foi, c'est-à-dire l'engagement, croire en quelque chose, si vous voulez, d'une façon, de tout son cœur, eh bien ça c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et je pense que la foi dans notre vie, c'est effectivement un rocher, c'est un cap, c'est quelque chose qui nous stabilise et sur lequel on peut camper fermement. Donc oui, la confession de foi est vraiment une chose forte et puissante, comme la pierre. Mais en même temps, comme la pierre, notre foi peut être pour le meilleur ou pour le pire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, je dirais récemment, à cause des exactions de certains intégrismes de tout poil, qui montrent que finalement la foi en elle-même et la conviction ne suffit pas pour faire le bien, voilà. Et que par conséquent la foi, dure comme la pierre, peut servir à faire le bien ou à faire le mal. Mais ce n'est pas parce qu'une pierre peut servir à faire le mal, ce n'est pas parce qu'une pierre peut servir à écraser quelqu'un, que je n'utiliserai pas des pierres pour construire un hôpital, voilà. Et donc oui, une pierre peut servir à construire un hôpital, c'est vrai, un abri, un phare peut-être pour diriger les bateaux, un port, une digue, mais une pierre peut aussi servir à lapider quelqu'un ou à jeter sur la femme adultère. Une pierre, même si vous avez une petite pierre, elle peut aider à soulager l'autre, lui dire « Tiens mon frère, assieds-toi sur cette pierre ». Mais avec cette même pierre, je peux le abrandir et lui écraser la tête. Je peux lui éclater la tête avec cette pierre. Eh bien, peut-être qu'avec ma foi, il en est de même. Et qu'effectivement, la foi en elle-même est certainement quelque chose de solide et de fort, oui. Mais pas forcément pour le bien. Et je vous l'ai dit, ça a été pour moi une découverte, parce que longtemps, j'ai prêché en disant... frères et sœurs, croyez en quelque chose. Ayez la foi, ayez une foi, parce que rien n'est pire que de ne croire en rien. Et ça, je le crois encore un peu. Enfin, rien n'est pire peut-être pas, mais en tout cas, ça, c'est dommage de ne croire en rien. On ne construit pas sa vie avec du rien. On ne construit pas sa vie avec du sable qui coule. On ne construit pas sa vie en vivant comme un animal qui va de ci de là en cherchant la meilleure nourriture pour le faire survivre jusqu'à ce qu'il meure. Mais on construit sa vie si on a un idéal, si on a une visée, si on a une conviction. Et l'idéal, la visée, la conviction, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi n'est pas forcément le sentiment de la présence de Dieu ou je ne sais quoi, mais c'est la conviction, la force, ce en quoi je crois au fond de moi-même, et ça c'est l'armature de mon existence. Et donc j'ai dit, oui, souvent, écoutez, croyez en quelque chose, ayez une foi, ne soyez pas des mollusques ne croyant en rien, qui seraient comme un fétu de paille allant à gauche et à droite suivant le gré des courants, mais si vous avez une visée, eh bien vous avancerez, vous traverserez des mers, des océans, des déserts, des ravins, parce que vous savez où vous allez. Et donc je l'ai dit ça. Et ainsi d'ailleurs, j'ai pu dire que dans ma grande ouverture d'esprit, j'ai dit finalement, peu m'importe que vous soyez chrétien, juif, musulman, franc-maçon, bouddhiste ou je ne sais quoi, mais croyez en quelque chose, quoi. Et puis finalement, je ne sais pas. Je pense que c'est vrai. Je pense que la vie est quelque chose qui doit se construire comme une maison, oui, ça c'est vrai, et que nous ne sommes pas faits juste pour subir et pour gérer au jour le jour les événements, mais il est bon de choisir son propre environnement intime, de choisir ce que l'on fait de sa vie, c'est-à-dire dans quel cadre on vit, parce que finalement notre foi, c'est le cadre dans lequel on s'installe, je dirais intellectuellement et spirituellement. Et donc, on se construit sa foi, et la foi c'est ma maison, oui c'est vrai, c'est là où j'habite, c'est ce qui me protège de l'extérieur, c'est ce à travers les fenêtres desquelles je vois le monde, et finalement c'est là où je me sens bien, là où je suis aimé, protégé, heureux et en paix. Et cette foi, eh bien, elle se construit. Si on ne construit rien, eh bien on est dehors, et puis on est content si ça se passe bien, et puis s'il fait beau, et puis s'il pleut, on souffre. Et ça, c'est vivre comme un animal dehors, et ça, c'est dommage. Et donc oui, nous devons nous construire une intimité. Et ça, c'est le travail de la foi. Se construire une personnalité qui résiste aux conditions extérieures. Un lieu, même, oui, je dirais, un lieu bien protégé, c'est la foi aussi, là où je vis dans ma foi. Et ce lieu, il est bien protégé, mais il n'est pas forcément une prison. C'est aussi je construis ma foi comme une maison, c'est vrai, une maison sur le roc. Et cette maison, elle peut servir à inviter des amis, elle peut servir à faire la fête, elle peut servir à élever des enfants heureux, à accueillir aussi peut-être des enfants qui ne le sont pas, mais c'est de vivre en ayant construit là où l'on est, plutôt que d'être comme des bêtes qui ne feraient que de profiter et de ne pas savoir si ce qui va arriver dans leur vie sera heureux ou malheureux. Donc oui, vous disais-je, construisez-vous une maison sur le roc. Construisez-vous quelque chose de solide et que votre foi, quelle qu'elle soit, je dirais, quelle qu'étiquette elle est, eh bien, bossez votre maison, travaillez votre foi. Voilà, ça c'est vital, c'est tout. Et donc je l'ai dit moi, quelle que soit votre foi, ayez une foi. Eh bien, je le maintiens, mais aujourd'hui j'ajouterai quelque chose. Choisissez quand même un peu en quoi vous croyez, parce qu'il y a quand même des fois qui sont catastrophiques pour soi et pour les autres. Donc oui, il y a des mauvaises fois. Et la foi est quelque chose de fort, mais la foi, comme je l'ai dit, peut être pour accueillir, faire une maison d'accueil pour soigner et se réjouir, ou ça peut être une pierre qui sert à taper les autres et à détruire. Mais une fois de plus, la religion aujourd'hui, elle est attaquée de toutes parts parce qu'on dit « Vous voyez, au nom de la religion, on massacre, on tue, on assassine, donc les religions sont mauvaises. » C'est idiot. Ça veut juste dire que les religions sont puissantes. La religion est puissante. La foi est puissante. La foi peut faire que quelqu'un qui a une foi tordue soit capable de mourir pour elle. Ce n'est pas de la puissance, ça. Mais simplement, comme toute puissance, elle peut être pervertie. Eh bien, cette puissance qui peut donner la mort, elle peut, dans le même degré, donner la vie. Extraordinaire. Et comme une personne avec une ceinture de bombe peut en tuer 100, une personne avec une ceinture d'amour peut en sauver 100. Ça, c'est la puissance de la foi. Et donc, oui, la foi a une puissance extraordinaire. Et c'est vrai, elle peut être mauvaise. Donc, toute foi ne se vaut pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la foi chrétienne, mais toute foi ne se vaut pas. Et donc, en tant que chrétien, moi, je dis, il y a quand même un bon rocher là-dedans. C'est le Christ. C'est ce que dit Jésus, d'ailleurs. Celui qui croit dans mes paroles et qui les vit, il est comme un sage qui construit sa maison sur le roc, effectivement. Ça, c'est une bonne base, le Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faille forcément être chrétien, mais la bonne base, ce roc extraordinaire, c'est la prédication du Christ. Et la prédication du Christ, elle est assez simple, hein, si on peut la résumer en moins de 10 valeurs. Je dirais, c'est l'amour, c'est la paix, le pardon, c'est la tolérance, c'est la grâce, c'est-à-dire la gratuité. C'est de faire grâce. C'est de rendre grâce. C'est de demander pardon. C'est l'humilité, le service. Voilà, ça c'est l'Évangile. Ça c'est l'Évangile. Et ça, eh bien, c'est un rocher extraordinaire. Bien sûr, on peut vivre ces valeurs sans être chrétien. Une fois de plus, les étiquettes ne m'intéressent pas. Mais je crois très profondément que ces valeurs que je vous ai dites là, eh bien, c'est vraiment le rocher, le roc sur lequel on peut construire une maison d'amour, de douceur, de tendresse, de vie et de bonheur. Et puis, en même temps, donc voilà, admettons que, je dis ce que je dis là, ça ne vous menace pas beaucoup, parce que si vous êtes là, c'est que j'imagine que vous n'êtes pas en train de vous dire « Tiens, c'est curieux, moi je suis pour la violence, la haine et la jalousie. » Donc vous dites « Oui, c'est bien ce en quoi je crois, donc nous sommes d'accord. » Mais vous allez peut-être l'être un peu moins maintenant. Parce que ce que je vois, moi, dans l'histoire de Pierre qui confesse sa foi et qui, juste après, va se faire traiter de Satan par Jésus, c'est qu'effectivement, c'est bien d'avoir la foi. C'est bien de dire « Oui Seigneur, je crois dans l'amour, dans le pardon et dans la paix ». Mais ça ne suffit pas, parce que cette foi, elle ne peut être active que si on va jusqu'au bout dans la logique de cette foi, et si on est prêt à la vivre jusqu'au bout. Et c'est ça que Pierre a essayé de dire au Christ qu'il devait éviter. Il lui dit « Non, Seigneur, faut pas que tu ailles à Jérusalem, parce que ça va être compliqué pour toi ». Et Jésus lui dit « Là, mon pote, tu es Satan, parce que tu es en train de ficher par terre tout ce que tu as dit de bien ». Parce que la foi, ce n'est pas le tout de dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». La question, c'est « Est-ce que moi, je suis prêt à le vivre concrètement jusqu'au bout » C'est-à-dire jusqu'à supporter les inconvénients que ça peut m'apporter, les sacrifices que ça peut me demander, et même peut-être le don de moi-même. Et donc, oui, je dirais, c'est bien d'avoir la foi, mais il faut être prêt à aller se battre pour elle, prêt à y mettre du sien, et éventuellement... Jusqu'à la mort. Et c'est là où je me retrouve sur ce texte de la maison sur le roc, si connu. Vous savez, le sage a construit sa maison sur le rocher. C'est le même mot que la pierre, sur la pierre. Celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, il est semblable à un sage. Et celui qui écoute ma parole et qui ne les met pas en pratique est semblable à un fou qui construit sur le sable. Eh bien, finalement, c'est ça que dit ce texte. Ce n'est pas le tout d'écouter les paroles. Il faut les mettre en pratique. Et en même temps, je n'aime pas cette traduction qu'on a d'habitude, mettre en pratique. Le texte grec est plus réaliste. Il dit « celui qui les fait ». Voilà. La foi, c'est quelque chose à faire. C'est quelque chose à vivre concrètement. Entendre les paroles du Christ, c'est bien, mais en plus, il faut les vivre. Et si on ne les vit pas, eh bien, ça ne mène à rien. Et finalement, je crois que l'Évangile, c'est une foi qui se vit. Voilà. Ce n'est pas juste des convictions, un petit bout dans notre cerveau. Oui, je crois dans l'amour, le pardon, la paix, la justice, etc. L'Évangile, c'est quelque chose qui se vit. Et si on ne le vit pas, on ne construit que du vent et du sable. Sinon, on ne mène à rien. Et sinon, notre vie n'est qu'un château de sable, qui sera balayé, je dirais, par le temps, balayé par la première vague, par les premiers soucis, la première contrariété. Si nous ne le vivons pas, notre vie ne mène à rien. Alors que si on vit cette foi autant qu'on peut, parce qu'on fait ce qu'on peut dans la vie et nous restons pécheurs, mais si vraiment on en fait un mode de vie, si vous voulez, alors, eh bien, ça nous construit. Parce qu'on ne se construit pas, si vous voulez, par des idéologies. On se construit par ce que l'on vit concrètement sur cette terre. Et c'est bien de parler d'amour et de pardon et de service, mais ça ne mène à rien si on ne le vit pas, ni pour les autres, et je dirais ni même pour soi. Parce que, en effet, souvent de cette chair, je prêche ces valeurs, le pardon, la paix, la justice, l'humilité, etc. Et aujourd'hui, voilà moi ce que je veux vous dire. C'est sortez d'ici et vivez-les ces valeurs. Et je me considère comme le premier d'ailleurs touché par cette prédication, parce que ça me remue aussi. Et ça me fait penser à cette histoire qu'on racontait en faculté de théologie, d'un pasteur qui un dimanche fait un sermon. Bon, les gens écoutent poliment. Le dimanche d'après, il fait exactement le même sermon. Alors à la fin, les fidèles lui disent « Mais monsieur le pasteur, vous nous avez dit la même prédication que la semaine dernière. » Et lui dit, « Quand vous aurez commencé à appliquer celle-là, je passerai à la suivante. » Eh bien, il n'avait pas tort. Parce qu'effectivement, finalement, nous sommes quand même, nous tous, les professionnels des idées en l'air. Voilà. Et je crois que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Non seulement notre Église ne peut avoir aucune crédibilité si nous ne le faisons que lancer des idées en l'air, soyons gentils, pardonnons, accueillons l'immigré, etc. Et d'autre part, je crois que nous-mêmes, nous ne construisons rien de solide pour nous si nous n'avons que des idées en l'air. Parce que oui, construire, mais d'ailleurs, construire quoi? Le sage construit sa maison sur le rocher, sur la pierre. Construit une maison, dit-on, alors s'agit-il de construire sa propre vie? Oui, sans doute, mais je crois qu'on peut préciser. Parce que la maison, dans la Bible, ça, alors là, ça, je sais ça. Je sais ce que c'est que la maison dans la Bible. Dans la Bible, la maison, c'est le temple de Jérusalem, c'est la maison de Dieu. C'est comme ça qu'on désigne le temple. Et donc, ce que nous avons à construire, c'est notre relation à Dieu. Donc oui, c'est la foi. Parce que le temple de Jérusalem, vous le savez, il a été détruit. Et depuis qu'il est détruit, Jésus nous a dit que le temple de Jérusalem, eh bien, c'est nous. Parce que Dieu n'habite pas dans des maisons en pierre, mais il habite dans nos cœurs de chair. Et donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul. Et ce temple, c'est nous. C'est nous qui sommes la maison appelée à accueillir cette source de vie qui est Dieu. Et d'autre part, où réside Dieu aujourd'hui pour nous? Eh bien, c'est Jésus qui dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc, le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la maison de Dieu, eh bien, c'est le cœur de l'homme et c'est la communauté. C'est dans la communauté que Dieu est présent. Et la communauté, en grec, ça se dit église, ecclésia. Et donc, nous revenons, à cette histoire de Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, il s'agit de construire une communauté et de construire notre propre foi personnelle. Eh bien, je peux décliner ce que je vous ai dit dans ces deux domaines. Si on se contente de bonnes paroles et qu'on ne les vit pas, on détruit l'Église, c'est-à-dire qu'on la décrédibilise. Comment voulez-vous qu'une communauté puisse vivre, qu'elle puisse avoir le moindre rayonnement, si ses fidèles font le contraire de ce qui est prêché le dimanche? Et donc, effectivement, l'Église n'a de sens que si, en tant que telle, et si chacun de ses membres est engagé à faire ce qu'ils disent. Voilà. Et ça, je pense que nous pouvons, on ne peut pas tout faire, mais je pense que chacun de nous pouvons en faire plus, voilà. Et qu'en plus, ce n'est pas que ça, mais c'est non seulement, vous disais-je, l'Église, mais aussi sa propre relation à Dieu. Et que si on ne vit pas ce en quoi l'on croit, on enlève toute consistance à sa foi et toute raison d'être. Parce qu'en effet, je dirais, c'est aussi la question de la transmission, c'est-à-dire notre foi. Notre relation à Dieu, est-ce qu'elle est quelque chose de solide qui peut être transmis aux enfants, aux petits-enfants? Si c'est juste une idée en l'air, vos enfants s'en foutront complètement. Si vraiment il y a là un engagement, il n'y a pas besoin de parole. Et ça, ça marque les esprits. Et puis aussi, ça construit l'Église parce que, je vous l'ai dit, cette maison, c'est aussi un peu nous. Et cette foi, nous en avons besoin pour vivre. Parce que c'est cette foi qui nous structure, qui nous protège, qui nous rassure, qui donne sens à notre existence. Et je pense qu'on construit quelque chose de solide et de consistant dans sa vie quand non seulement on a une foi, mais qu'en plus on la vit concrètement. Et que c'est là qu'on construit quelque chose de solide. Sinon, on ne se fait qu'un château de sable. Oui, je suis protestant, je suis chrétien, je crois en ceci, en cela. Mais ça, c'est balayé à la première contrariété venue. À la première épreuve venue, il n'en reste rien. Ce qu'il reste, c'est ce que l'on a construit d'effectif. Celui qui croit dans mes paroles et qui les fait, il est comme l'homme sage qui construit sur le roc. La foi qui aide, la foi dont on vit, c'est celle qui s'incarne. Sinon, il ne reste rien. Alors, on peut faire encore plein de mises en garde. Oui, il y a celle de ne pas faire, ou sinon le fou qui construit sa maison sur le sable. Alors là, je peux me rattraper, c'est plus facile. Parce que le sable, ça, je sais ce que c'est aussi. Le sable, dans l'Ancien Testament, c'est toujours une seule chose. C'est « ta descendance sera nombreuse comme le sable, le peuple sera nombreux comme le sable ». Donc le sable, c'est plus facile, c'est toujours pour évoquer le nombre des croyants. Alors, autre petite mise en garde sur laquelle je passe rapidement, sur quoi fonder sa foi? Sur le nombre de croyants, mon église est nombreuse, taratata, ça ne mène à rien. Sur ces nombreux ancêtres protestants, j'avais des ancêtres camisards, d'autres en Alsace, d'autres protestants qui ont fait aucun intérêt. Croire que l'Église serait solide, effectivement, si elle était toujours à se glorifier de son nombre, des nombreuses personnes qui sont de sa tradition, ça ne résiste pas, ça ne résiste à rien, tout ça, ce n'est que du sable. Et ce type de construction sur les traditions familiales, ça peut tenir votre génération, mais ça ne passera pas la suivante. Voilà. Ce ne sera qu'une ruine pour vos enfants. La seule chose qui résiste, c'est ce qui est vécu soi-même. Donc, laissez tomber les camisards, laissez tomber les Saint-Barthélemy et autre chose. Et aujourd'hui, si vous, vous êtes chrétien, si vous, vous êtes croyant, si vous, vous êtes protestant, c'est quoi votre combat? C'est ça la question, et c'est ça la maison solide pour vous et pour vos enfants. C'est pas la maison de Coligny qui sera solide pour vous, c'est la vôtre. Et donc aujourd'hui, Jésus a raison. Il faut croire et faire, il faut refonder sa religion dans le croire et dans le vécu. Vous me direz, c'est la foi et les œuvres. Peut-être, mais en tout cas, c'est des œuvres qui ne priment pas, parce que ce ne sont pas elles qui pourraient avoir de l'importance d'une façon autonome, mais c'est ces œuvres qui ne sont que l'incarnation d'une foi. Et s'il n'y a pas de faire, c'est que votre foi n'est rien. Voilà, c'est tout. Ou que vous êtes des fous. J'en suis un peu aussi. Alors nous, nous avons, je vous l'ai dit, un rocher. Et ce rocher, c'est le Christ. Son enseignement, sa présence. Et ça, tout cet évangile, eh bien, c'est, oui, c'est le rocher de ma vie. C'est le cap, dans tous les sens du terme. Le cap rocheux sur lequel je peux construire ma maison forte, et c'est aussi le cap vers lequel je me dirige. C'est l'enracinement de ma vie, c'est la source d'eau dans le désert, ce rocher sur lequel je peux frapper et dont il sort une source d'eau même dans les endroits pierreux et rocheux et désertiques. Et ça, c'est ce que nous dit Paul, que finalement, effectivement, ce rocher, le vrai rocher, le vrai roc, la vraie pierre, ce n'est ni vous, ni moi, ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, mais c'est Jésus-Christ, bien sûr. Et c'est ce que dit Paul, effectivement, 1 Corinthiens 10, « Frère, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont été plongés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. » Amen.